VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 19 avril 2016. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Michel Joseph. Tout d'abord les titres.
Au Tchad, le verdict est connu dans l'affaire Dr Albissati Salé à la ZAM.
Congo-Brazzaville, Amnesty International a accusé les forces de sécurité d'utilisation excessive d'armes meurtrières sur des zones résidentielles.
Le nouveau président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, reçu hier au Vatican par le pape François.
Au Cameroun, un garçon percuté est tué dans le nord par une voiture du convoi de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Samantha Power.
Des soldats supplémentaires et des hélicoptères de combat américains vont être déployés en Irak, annonce le chef du Pentagone, Ashton Carter.
Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, verdict hier soir dans l'affaire qui oppose le docteur Albissati Salé à la ZAM au ministère public. L'activiste des droits de l'homme écope lui aussi de la même peine que les quatre leaders arrêtés pour la même cause, nous signale de N'Djamena notre correspondant André Kotmajingar.
Arrêté le 4 avril dernier pour l'organisation d'une manifestation interdite, le juge en charge du dossier, Ndjigoto Moïse, a requalifié l'infraction à une tentative d'attroupement non armé. Pour cette infraction, Dr Albissati Salé Alazam, porte-parole adjoint de la plateforme Ça suffit, est condamné à 4 mois avec sursis comme ses 4 compagnons de lutte. Maître Kem Nelum Djiraibi Delphine, porte-parole des avocats de la défense, s'insurge contre cette décision et interjette l'appel.
La décision dit qu'ils ont disqualifié pour revenir à la tentative de provocation à un attroupement non armé. Donc vous voyez vraiment que c'est du tâtonnement. On va, on essaie ici, ça marche pas, on revient essayer là. Mais c'est avec la liberté des gens qu'on joue. Et ça, c'est vraiment dommage pour notre justice et pour notre pays.
Commentaire en privé dans les QG des organisations de la société civile qui ont eu maille à partie avec la justice. Selon Manga Jean Bosco, porte-parole adjoint de la coalition Trop c'est trop, la décision du juge est une tentative d'obtenir cette condamnation afin de les empêcher d'exercer leurs droits constitutionnels. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Le président centrafricain en visite au Vatican, une reconnaissance du rôle joué par le Saint-Siège pour ramener la paix en République centrafricaine. Faustin Archange Touadéra, qui a été reçu lundi par le pape François, s'est entretenu avec le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Dans un entretien accordé à nos confrères de Radio Vatican, le président Touadéra est revenu sur la place de la justice dans la réconciliation nationale en République centrafricaine.
La justice est aussi le ciment de cette réconciliation. Il faudrait penser que les communautés doivent se réconcilier. Le pardon est donc, c'est la clé. Il faut se pardonner. Mais il faut aussi se pardonner sur la base de la justice parce qu'il y a eu des victimes, donc qui doivent se plaindre et que la justice doit faire son travail. Nous, de notre côté, nous pensons vraiment que notre justice soit une justice transparente. Il n'y aura pas d'influence politique.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra dans un entretien accordé à Radio Vatican.
En Mauritanie, un blogueur condamné à mort en décembre 2014 pour apostasie sera jugé en appel à partir de jeudi à Ouagadougou, Idriss Fall.
Cheikh Ould Mohamed Ould Mhetir, alias Mohamed Cheikh Ould Mohamed, 31 ans, est détenu depuis le 2 janvier 2014 à Ouagadougou. Il a été jugé par la cour criminelle qu'il a reconnu coupable d'apostasie et condamné à mort le 24 décembre 2014. Ses avocats avaient interjeté appel 2 jours après l'annonce du verdict et il sera jugé en appel jeudi à Ouagadougou. Le tribunal lui reprochait d'avoir parlé avec légèreté du prophète Mohamed dans un article publié brièvement sur des sites internet. Pendant son procès, le blogueur avait dit qu'il n'avait pas l'intention de critiquer le prophète, mais de défendre la caste des forgerons dont il est issu et traditionnellement au plus bas de l'échelle sociale. Jusqu'à cette affaire dite Ould Mhetir, la Mauritanie n'avait jamais connu de condamnation à mort pour apostasie. La peine de mort n'est pas officiellement abolie dans ce pays, mais la dernière exécution remonte à 1987.
Une voiture du convoi de Samantha Power, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, a percuté et tué un garçonnet camerounais hier, alors qu'elle effectuait une tournée dans le nord du Cameroun. Selon un officiel américain, l'accident a eu lieu près de Maroua, où Madame Power visitait un camp de réfugiés et discutait avec des officiels de la menace que constituent les militants islamistes de Boko Haram dans la région. Elle a exprimé sa grande tristesse et s'est rendue auprès de la famille pour exprimer sa peine, le cœur brisé.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis vont déployer des soldats supplémentaires et des hélicoptères de combat en Irak pour soutenir les forces irakiennes dans la reconquête de Mossoul et d'autres régions aux mains du groupe État islamique. Le point avec Nani Talani.
L'annonce a été faite hier par le secrétaire à la Défense Ashton Carter au cours d'une visite surprise à Bagdad. Le porte-parole du Pentagone, Jeff Davis, a précisé que 217 militaires seront déployés, ce qui portera les effectifs américains à 4087. Les forces américaines resteront dans des rôles de conseil et d'entraînement aux forces irakiennes sans participer directement au combat, comme l'avait décidé le président Barack Obama. Toutefois, l'aide américaine va au-delà des conseils. M. Carter a donné son accord à l'intervention d'hélicoptères Apache, déjà proposée pour l'offensive contre Ramadi, mais non utilisée par les Irakiens. Les Apaches peuvent réagir rapidement et efficacement lorsque la situation l'exige sur le terrain. Par ailleurs, les États-Unis débloqueront une aide de 415 millions de dollars pour les Peshmerga, les combattants kurdes, qui ont joué un rôle de premier plan à faire reculer le groupe État islamique dans le nord de l'Irak. Selon les responsables américains, les États-Unis vont en plus exhorter les pays du Golfe à utiliser leur influence sur les sunnites pour appuyer les efforts du premier ministre irakien pour construire un État multiconfessionnel dans un pays majoritairement chiite.
L'opposition syrienne a suspendu hier sa participation formelle aux délicates négociations de paix de Genève pour protester contre la détérioration de la situation en Syrie, où la trêve est menacée. Les précisions de John Linden.
Le Haut Comité des négociations est apparemment divisé entre ceux qui veulent quitter Genève, principalement les groupes armés, et ceux qui ne veulent pas rompre avec le délicat processus de paix engagé depuis janvier sous l'égide de l'ONU. Le coordinateur de l'opposition, Riyad Hijab, a jugé hier inacceptable de poursuivre les négociations alors que le régime de Damas continue de bombarder et d'affamer les civils en menant une offensive militaire contre la région d'Alep en dépit de la trêve. L'opposition et le régime de Damas sont néanmoins d'accord sur la nécessité de mettre en place une transition politique, même s'il y a un grand fossé sur son interprétation. Le Haut Comité des négociations exige le départ préalable du président syrien Bachar al-Assad au pouvoir depuis 16 ans, alors que le régime considère que le sort du président Assad n'est pas négociable. Hier, lors d'une conversation téléphonique, Vladimir Poutine et Barack Obama se sont mis d'accord pour renforcer le cessez-le-feu et l'aide humanitaire en Syrie.
Au Brésil, la présidente Dilma Rousseff se jure de mener une bataille longue et mémorable contre une possible destitution après que la Chambre basse du Parlement eut décidé dimanche soir de recommander au Sénat son procès pour corruption. Intervenant lors d'une conférence de presse télévisée, Madame Rousseff a exprimé sa profonde indignation.
Ici, aux États-Unis, les candidats à la présidentielle de novembre ont lancé hier soir des appels de dernière minute aux électeurs de l'État de New York, où se tiennent aujourd'hui des primaires cruciales pour les républicains comme pour les démocrates. Hillary Clinton, ancienne sénatrice de New York, jouit d'une nette avance sur son rival démocrate Bernie Sanders, tandis que le favori Donald Trump, qui est lui-même de New York, est nettement en tête face à ses adversaires républicains Ted Cruz et Jean Kasich.
Doris Roberts, la star de la série télévisée américaine Tout le monde aime Raymond, est décédée dimanche à 90 ans à Los Angeles, où les hommages se multipliaient lundi pour saluer la mémoire de l'actrice.
Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Vive contestation sociale sur l'île de Kerkena en Tunisie. Des habitants s'opposent aux compagnies pétrolières qui exploitent leurs richesses et ne leur donnent rien, ont-ils affirmé. Les activités de la société pétrolière britannique Petrofac en ont été perturbées. Ces habitants protestaient également contre la perspective d'une remise en cause d'un accord salarial avec l'État tunisien. La tension sociale, déjà sensible sur l'île, est montée en flèche début avril après la dispersion d'un sit-in organisé depuis la mi-janvier par des habitants. Les cours du pétrole ont dévissé hier lundi, au lendemain de l'échec des grands producteurs d'or noir réunis à Doha à se mettre d'accord sur un gel de la production pour soutenir les prix. Les divergences entre l'Iran, qui a annoncé au dernier moment son absence à la réunion, et l'Arabie saoudite ont empêché les tractations d'aboutir. Depuis juin 2014, quand le baril se négociait à 100 dollars, les cours ont dégringolé en raison d'une offre excédentaire que ne parviennent plus à absorber des économies en plein ralentissement, à l'instar de la Chine. Enfin, l'administration Obama finalise un plan de lutte pour réduire l'opacité des sociétés offshore créées aux États-Unis et combler une faille de la réglementation du pays. Selon le secrétaire américain au Trésor, Jack Lew, l'évasion fiscale nuit aux finances publiques, affecte l'équité de nos systèmes fiscaux et freine la croissance mondiale.
Les sports à présent avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Ligue africaine des champions, huitième de finale retour.
Le Stade malien, après sa défaite 3-1 à Bamako en déplacement ce mardi chez le ZESCO United en Zambie. L'ASEC Mimosa, victorieux 2-0 à Abidjan, se déplace pour affronter Al Ahly de Tripoli. Autre match à suivre, le Zamalek du Caire face à Béjaïa. Le Caire qui l'avait emporté 2-0 à l'aller. Et puis Sétif qui accueille Al-Merrer du Soudan 2-2. On retiendra également demain le tout-puissant Mazembe, le tenant du titre qui reçoit le WAC de Casablanca, les Congolais qui s'étaient inclinés 2-0 à l'aller.
Autre compétition demain, la Coupe de la Confédération.
Le Stade Gabésien de Tunisie contre le Zanaco de Zambie, 1-2 à l'aller. Sagrada Esperanza, le club angolais, accueille le V-Club Mokanda, les Congolais qui s'étaient inclinés 2-1 à l'aller. Les Tanzaniens d'Azam en déplacement à Tunis. Et puis le Misr Makassar, le club égyptien, accueille le CS Constantine. 1-0 à l'aller pour les Algériens.
Crise à la Fegifoot. Le président suspendu par ses collègues du bureau exécutif de la fédération.
Salifou Camara, alias Super V, a été suspendu par ses pairs. Outre les 11 membres du bureau exécutif, plusieurs ligues régionales semblent rallier les contestataires de Super V. Ils demandent donc un congrès extraordinaire pour parler de la gestion de la Fegifoot par l'actuel président de l'institution. J'ai joint hier à Conakry le vice-président de la Fegifoot, Amadou Diaby.
Je dirais que le président est bel et bien suspendu pour une faute lourde. Donc nous avons fait qu'appliquer la loi. Car le président de la Fédération Guinée de football a annulé la signature des co-signatures de un des secrétaires généraux au niveau de la banque sans consulter les membres du comité exécutif. Je pense que nous sommes une association, nous ne sommes pas un magasin. Voilà.
Quelle faute lourde lui reprochez-vous concrètement? Est-ce qu'il y a aussi des soupçons concernant la gestion ou pas?
Aujourd'hui, il est reproché par nous par sa gestion unilatérale. Vous savez, aujourd'hui, la FIFA et la CAF interdisent aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé à la FIFA, vous le savez aujourd'hui. Donc, nous voulons des institutions respectables, respectées. Donc, la gestion et opacité des sessions.
Voilà, c'était Amadou Diaby, le vice-président de la Fédération guinéenne de football.
Marathon de Boston, l'Afrique à l'honneur.
L'Éthiopien Lemi Baranou a remporté la course, l'une des 6 épreuves du circuit mondial, avec un chrono de 2h12 minutes et 45 secondes. Sa compatriote, l'Éthiopienne Atsede Baïza, a remporté l'épreuve chez les dames en 2h29 minutes et 19 secondes. Enfin, Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats des playoffs NBA, le championnat de basket nord-américain.
Bien, deuxième match dans les séries d'hier soir. Indiana Pacers 87, Toronto Raptors 98. Les deux équipes ont chacune une victoire dans leur série maintenant. Et c'est la même situation dans le cas des Mavericks de Dallas, les Mavericks de Dallas, qui ont battu Oklahoma City avec 85-84. Et enfin, en revanche, Golden State mène 2-0 en battant les Houston Rockets. Aujourd'hui, de nouveau avec vous, Idrissa Sédounia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Amnesty International a accusé les forces de sécurité congolaises d'utilisation excessive d'armes meurtrières sur des zones résidentielles. Les raids aériens qui ont frappé des zones résidentielles dans le département du Poul, faisant des morts et des blessés et détruisant des bâtiments, y compris des églises, des écoles et des établissements médicaux, constituent un recours excessif à des armes meurtrières de la part des forces de sécurité, a déclaré hier Amnesty International. Il est choquant qu'elles aient bombardé des zones résidentielles en réaction aux violences survenues à Brazzaville le 4 avril. Au lieu de cela, elles auraient dû faire le nécessaire pour que les suspects soient traduits en justice, a déclaré au micro de Nicolas Pineau la chercheuse d'Amnesty International sur l'Afrique centrale, Ilaria Allegrossi.
Oui, effectivement, on a parlé avec des témoins qui sont dans les zones affectées par les bombardements, également des journalistes et des populations qui sont dans les zones du Poul, qui nous ont rapporté les bombardements de la part des forces de sécurité, des bombardements aériens à partir du 5 avril dans plusieurs localités de la zone du Poul, notamment le village de Sumuna, Mayama et la localité de Vinza, où également une école a été bombardée, une école où il y avait le moment du bombardement. Heureusement, pas d'enfants, mais c'est une école primaire qui est fréquentée en général par des centaines d'enfants. L'école a été détruite, bombardée. Au moins 3 bâtiments de l'école ont été touchés, ce qui représente vraiment une violation grave des engagements pris par les Congos au niveau international, et notamment par rapport au droit à la vie. Bombarder des zones résidentielles où il y a des populations qui y habitent, c'est une violation grave.
Est-ce qu'Amnesty International a pu vérifier indépendamment ces témoignages ?
On a parlé avec des témoins oculaires qui étaient sur place, qui nous ont donné leur témoignage. On n'a pas pu confirmer de manière indépendante le nombre des morts. Un des témoins nous a rapporté qu'au moins 30 personnes ont été tuées entre les villages de Ngila et les villages de Sumuna. Toutefois, il était très difficile pour nous de vérifier de manière indépendante ce chiffre, aussi parce qu'un chercheur d'Amnesty qui a essayé de se rendre au Congo en février a été refoulé. Et donc, nous, on n'a pas un accès à ces zones. Mais les témoins avec qui on a parlé à travers des entretiens téléphoniques qui nous ont rapporté tout ça, et également par rapport au déplacement massif des populations, c'est-à-dire que dans les villages qui ont été affectés par les bombardements, les populations ont fui, ces villages sont à présent désertés, et les populations ont trouvé refuge dans les zones environnantes, dans la brousse ou même à Brazzaville.
Que pensez-vous de la réaction de la communauté internationale concernant la situation au Congo-Brazzaville ?
Il y a eu une déclaration de la part des Nations Unies concernant les violations des droits de l'homme commises dans la zone du Poul, et Amnesty a également réagi. Nous attendons que surtout les autorités congolaises puissent mener une enquête impartiale et indépendante sur ce qui s'est passé, qui pour nous est très grave. Pour nous, il est important que la communauté internationale puisse réagir et puisse faire des déclarations par rapport à ce qui s'est passé. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il y ait un accès libre à ces zones pour justement évaluer les dégâts matériels, mais également les morts parmi les civils, qui portaient assistance aux populations qui ont été affectées.
Ilaria Allegrossi, chercheuse d'Amnesty International sur l'Afrique centrale.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Trois associations de défense des droits de l'homme réclament une enquête indépendante sur la mort en détention de Solo Sandeng, un opposant au régime de Yahya Diame en Gambie, Human Rights Watch. Amnesty International et Article 19 exigent aussi la libération du dirigeant de son parti, Ousseynou Darbo, et d'autres membres militants incarcérés en Gambie. Idriss Fall a joint à Dakar Fatou Diagne Senghor de l'association Article 19.
Soulou a manifesté jeudi 14 pour des réformes électorales avec ses collègues de l'UDP. la manifestation a été violemment réprimée et par la suite, il a été arrêté. Deux jours après, on apprend qu'il est décédé en détention.
Et apparemment, d'autres leaders de son parti sont en état d'arrestation?
Oui, plus d'une vingtaine de personnes sont arrêtées. D'autres personnes ont subi des violences pendant ces trois derniers jours.
Et la mort de Sandeng, vous demandez quoi? D'autant que ce n'est pas la première fois qu'il y a des opposants tués en Gambie, non?
Ah, bien sûr que cesse l'impunité, cette brutalité des forces de l'ordre sur l'instruction du président. Et l'autre chose, que toute la lumière soit faite sur ce cas pour que ça arrête une bonne fois. Et aussi, par ailleurs, le chef d'un parti de l'opposition a été aussi arrêté depuis le 16. Il réclamait la libération des détenus et puis que la lumière soit faite sur le cas de son collègue Zendeng, qui aussi nous d'abord est arrêté depuis samedi 16.
Et vous pensez que Yahya Jammeh prêtera une oreille à vos appels?
Il est obligé. Ce qui se passe en ce moment est inadmissible, que des personnes demandent simplement la réforme d'un processus électoral, surtout des parties prenantes, des opposants qui demandent que les réformes soient faites, qu'on les brutalise à ce niveau. Je pense que ça ne doit pas rester impuni.
Et d'autant que les élections sont prévues en décembre, non?
Bien sûr, et tout cela inquiète parce que le climat préélectoral s'est déjà détérioré. Et les réformes, c'est des réformes iniques, des réformes injustes, ces réformes décourager les partis d'opposition à prendre part effectivement. Ils ont augmenté la caution de plus de 500 000 dalassi. Ils ont imposé à ce que tous les partis puissent avoir des sièges dans différentes localités, dans différentes circonscriptions. Mais aussi, ils ont empêché à ce que des personnes qui n'habiteraient pas en Gambie, des Gambiens qui sont dehors, qui puissent prendre part aussi aux élections en tant que candidat. Tout ceci montre que le régime n'arrête devant rien et pousse le bouchon jusqu'à son extrême. Et il est temps que la communauté internationale, notamment africaine, se saisisse de cette affaire de la Gambie pour que Yahya Jammeh soit rappelé à de meilleurs sentiments. Il bafoue toutes les règles. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la Gambie reste vraiment la tache noire et les répressions ne s'arrêtent pas du tout.
Fatou Diagne Senghor de l'association Article 19.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La nouvelle compagnie aérienne sénégalaise pourrait décoller plus tôt que prévu. La ministre des Transports aériens en est convaincue. Un capital de 40 milliards de francs CFA doit être mobilisé. Toutefois, il y a des non-dits dans cette affaire. Des langues se délient, mais dans la discrétion. Nous dit de Dakar notre correspondante Sorna Natambaye.
Une semaine après la dissolution de Sénégal Airlines, plusieurs interrogations restent en suspens. D'abord, on parle de mise en faillite ou de liquidation. Maïmouna Ndoye Seck, ministre des Transports aériens.
Je pense que cela sera connu lors de la prochaine réunion du conseil d'administration qui sera convoquée par son président.
En parlant de réunion, des actionnaires se sentent mis à l'écart. MSN, l'un d'eux.
Ça aurait été une société normale, mais on les aurait attaqués. On aurait attaqué les administrateurs parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de mettre de l'argent et de ne pas être informé du tout. Et ensuite, en bout du jour, de nous dire ben voilà, votre société est en faillite et vous avez perdu votre argent. Vous pensez que vous l'accepterez, vous?
En plus, ces mêmes actionnaires déclarent avoir perdu gros dans cette affaire. Alors, ils veulent nécessairement être impliqués dans la nouvelle société.
Je pense qu'il est bon de rendre compte aux anciens actionnaires et aussi de leur donner aucune idée, sa qualité et des avantages sur la nouvelle compagnie. Je pense que ce serait gros quand même que dire vous étiez actionnaire, vous avez perdu votre argent, vous mettez du côté. Ceux qui veulent mettre de l'argent sur la nouvelle compagnie, venez, vous mettez votre argent, vous êtes actionnaire. Ce serait quand même gros.
Cela ne marche pas comme ça, affirme la ministre des Transports aériens, qui dit nouvelle société, dit nouvelles conditions.
S'ils souhaitent rentrer dans la nouvelle compagnie, ils vont y entrer comme les autres Sénégalais qui le souhaiteraient, en libérant une partie du capital qui leur permettra d'avoir des actions dans la nouvelle société.
En ce qui concerne la nouvelle compagnie aérienne, Air Sénégal, la somme de 40 milliards de francs CFA a été mobilisée pour la capitalisation. Maïmouna Ndoye Seck.
Il s'agit de 40 milliards en numéraire, dont le quart a déjà été versé chez le notaire pour la constitution de la compagnie. Et très prochainement, le reste sera versé pour permettre à la compagnie d'avoir de la trésorerie afin de pouvoir démarrer ses activités.
Malgré la fermeture de Senegal Airlines, un haut responsable continue de déclarer que la société a été sacrifiée. Elle était loin de la faillite et avait même investi près de 30 millions de francs CFA pour se refaire une image. Il n'empêche, l'État du Sénégal a bien décidé de fermer cette page. Sornana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
Revenons ce matin sur le geste humanitaire et symbolique du pape François au retour de son déplacement sur l'île grecque de Lesbos au cours du week-end écoulé. Le souverain pontife a en effet décidé de ramener avec lui dans son avion en direction du Vatican trois familles de réfugiés syriens musulmans, 12 personnes au total qui avaient échoué sur l'île de Lesbos en passant par la Turquie. À Rome, en Italie, ces invités du pape ont déjà été pris en charge par l'association Sant'Egidio. Il s'agit d'une initiative sans précédent dans un voyage papal. Mais la démarche du chef de l'Église catholique comprend-elle également une dimension politique? Jacques Aristide a posé la question au père Janvier-Marie-Gustave Yaméogo, chargé de l'Afrique et du secteur francophone au secrétariat pour la communication du Vatican.
Bon, il faut que cela soit clair. La dimension politique, comme vivre ensemble, est partout présente dans l'activité du Saint-Père. Vous rappelez que sa première visite d'ailleurs comme pape a été à l'île de Lampedusa après les différents naufrages. Et en allant justement à Lesbos, il a encore dit clairement « Je vais à la rencontre de la douleur, à la rencontre de la souffrance. Nous allons voir la mer qui est devenue un cimetière. » C'est un choix d'ailleurs fondamental pour le pape qui a dit qu'il appelle l'Église à être comme un hôpital de campagne après une guerre pour soigner la souffrance des personnes. Donc on ne peut pas y voir justement un aspect seulement politique, politicien. Non, c'est vraiment le rôle même de l'Église. Et effectivement, la dimension politique, c'est que cela souligne très fortement et donne honte aux politiques qui ont en charge la gestion, effectivement, de vivre ensemble. Et c'est une faillite de l'humanité, une faillite de la solidarité qui est dénoncée en acte par le fait même que le pape il se rend sur place. Il a serré la main à 300 personnes différentes. Et comme il dit dans l'avion qu'il ramène, ces 12 personnes réfugiées tirées au sort représentent, comme disait Mère Teresa, une goutte d'eau dans l'océan de la misère. Mais c'est déjà cette goutte d'eau.
On sait d'ailleurs que la maison de l'une de ces familles a été détruite par le groupe État islamique. Et puis, il y a le renforcement des frontières dans certains pays d'Europe contre les flux migratoires. D'ailleurs, il y a des migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne. La démarche du pape peut être donc interprétée comme une prise de position sur ces différents fronts.
Je voudrais insister sur, par exemple, la symbolique par exemple, de ce qu'il a raconté sur le témoignage de ce jeune. La femme était catholique et elle a été égorgée. Et lui, il est musulman. Il raconte cela au pape en pleurant et le pape le retransmet. Alors, derrière ce récit, la dimension à faire voir, c'est que nous avons affaire à des êtres humains. C'est l'humanité qui souffre. Ce n'est pas d'abord les catégories d'islamistes, de barbares, des gens qui font le mal, mais c'est une humanité qui souffre. Mais en même temps, cela dit, la possibilité de cette humanité de vivre ensemble. Parce que si cet homme a été capable d'épouser une chrétienne qui a été égorgée par d'autres personnes, ça veut dire qu'il y a quand même la possibilité de l'amour entre chrétiens et musulmans. Mais il y a toujours ce risque-là de ces gens qui ont égorgé, qui ont fait le mal. Et le pape a appelé plusieurs fois aussi en disant politiquement qu'il faut arrêter les personnes qui font le mal, les personnes qui tuent.
Eh bien, c'était le père Janvier-Marie-Gustave Yaméogo, joint à Rome, en Italie. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydou Dia à Washington. Bonne journée. à l'écoute de VOA Afrique.